Voici Zoom avec cette semaine le monde paysan par le grand bout de la lorgnette pour élargir le champ de la réflexion et de l'action. Une émission réalisée et présentée par Martine Calcinotto sur Bram FM 98.3 au cœur de la Corrèze. Cette semaine, je vous propose de découvrir la spiruline fraîche, une spiruline 100% naturelle produite dans la ferme d'Éric Constant, une spiruline artisanale, une occasion pour découvrir la spiruline.
Donc la spiruline exactement, c'est une, on appelle souvent, on voit marqué micro-algues ou algues, la spiruline exactement c'est une cyanobactérie. C'est une bactérie donc, qui se développe donc, dans une eau qui est saumâtre. Donc elle ne peut pas se développer en mer, hein, absolument pas. Donc elle se développe à l'état naturel dans des lacs qui sont au niveau de l'équateur à peu près. Donc il y en a au Tchad, il y en a en Inde et un en Amérique. Et après c'est que dans des bassins artificiels comme ceci. Voilà. Et en plus elle vit dans une eau avec un pH entre 10 et 11. Donc très basique. Voilà. En dessous de 9,5, elle ne va pas survivre. Et au-dessus de 11, 11,5, c'est pareil, c'est dangereux pour elle, elle ne va pas vivre. Donc après, pour avoir des conditions optimales, on va dire, pour qu'elle se développe, il faut qu'il y ait assez de luminosité, donc la photosynthèse, hein, comme toute algue ou micro-algue. Et après, que l'eau elle soit à une température entre 25 et 35 degrés. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est sous serre. Sous serre. Alors il faut certes il lui faut de la lumière mais pas trop non plus, c'est pour ça qu'il y a des filets d'ombrage, parce que trop de soleil, celle que vous voyez à la surface là, ça peut la brûler. Voilà, tout le vert que vous voyez en surface là, c'est de la spiruline. Hein. Voilà, ça ne sera jamais plus gros, ça fait 50 microns la spiruline en gros. D'où les roues à aubes qui permettent de la brasser. Donc celle qui est dessus va passer dessous et vice versa. Comme ça va permettre à celle de dessous de voir la lumière et de pouvoir se développer et ainsi de suite quoi. Ce qu'on voit là, c'est des amas de spiruline. Il y en a peut-être des milliers et des milliers sur ces petits morceaux-là.
Et quand la température extérieure est très chaude, comme par exemple cet été?
Alors, elle s'adapte jusqu'à un certain niveau, jusqu'à un certain moment. Donc moi, quand il fait vraiment trop chaud, j'ouvre les côtés, les serres là, pour que ça ventile. Et après l'après-midi, vraiment, si vraiment l'eau monte à au-dessus de 38 degrés, je viens et je pulvérise un petit peu d'eau par-dessus pour refroidir un petit peu quoi. C'est souvent on va dire de 14h, entre 14 et 16h au maximum, où c'est que là la température de l'eau peut arriver à... Mais si le matin, en plein été l'eau elle va être à... Ça paraît pas mais quand même la nuit ça baisse, hein, la température baisse quand même. Hein. Donc en ouvrant pour que ça ventile. Donc le matin si l'eau est à 28-29, vers 14h elle va monter, elle va être à 32-33, donc à laissant ouvert ça permet de le tenir maximum à 35, pas plus quoi.
Une spiruline 100% naturelle produite dans la ferme d'Éric Constant.
La production est saisonnière, on attaque, donc j'ai attaqué là on va dire fin avril début mai où je faisais une récolte par semaine, voilà, et encore des fois tous les 15 jours pour après progressivement monter à une récolte par semaine par bassin. Donc là j'ai 4 bassins et plus on va vers la fin de saison parce que l'hiver après je la garde, hein, elle va rester dans ce bassin là et au printemps prochain dès lors qu'elle va commencer il va y avoir assez de luminosité et de chaleur, donc je vais préparer mes autres bassins et récolter une partie de celle là pour ensemencer, voilà.
Et l'eau que vous utilisez, elle vient d'un puits ou...
Alors l'eau ici, non, moi j'utilise l'eau de ville, voilà, parce que avec une chaleur comme ceci, sous serre, à plus de 40, je mets l'eau, je prépare mon milieu, donc il faut un petit peu de sel pour que l'eau soit un petit peu saumâtre, et après je vais mettre ma spiruline, j'attends à peu près 7-8 jours, donc tout est fermé. Donc ici dedans, ça monte à 60 degrés. Hein. Donc à 60 degrés, tout va s'évaporer. S'il y a un peu de chlore ou un peu de javel dans l'eau de ville, ça va s'évaporer. Alors la spiruline, en se développant, elle fait monter le pH. Elle. Pour réguler le pH, on régule avec du bicarbonate de sodium.
En fait, qui est à l'origine de la découverte de la spiruline?
Il y a une soixantaine d'années maintenant, il y a un chercheur belge qui s'est aperçu, enfin, lui et d'autres avant sûrement, mais c'est lui qui a vraiment été vraiment allé chercher la spiruline là-bas. Ils se sont aperçus que la population autour du lac, eux, ils allaient bien, ils étaient en forme. Et ils connaissaient pas ces problèmes de malnutrition comme on peut voir en Afrique ou même dans d'autres pays. Mais donc, il est allé là-bas pour voir qu'est-ce qu'ils faisaient de spécial et tout ça. Et s'est aperçu qu'ils allaient dans ce lac, ils récoltaient donc la spiruline, ce produit qu'ils savaient pas exactement ce que c'était. Ils récoltaient ça, ils revenaient en bordure dans les pirogues, ils revenaient en bordure du lac, ils faisaient un trou dans le sable, ils vidaient cette pâte là, ils vidaient ça. Et après ça, donc dans l'après-midi, c'était sec. Et ça, après, ils le mélangeaient à leur alimentation. Et voilà, donc il en a pris une bouteille d'un litre et demi, hein, il en a pris, il l'a ramené ici chez lui, en Belgique. Et il l'a analysé, c'est là qu'il s'est aperçu que c'était très très complet, quoi. Il y avait énormément de choses dans la spiruline. D'où après, lui, il a commencé à essayer de la multiplier, quoi. Voilà. Et petit à petit, ça s'est su et tout, et petit à petit, il a commencé à y avoir des producteurs en France. Alors, producteurs en France, les premiers, ça fait 10-12 ans maintenant, où il y en avait, on va dire, 5 ou 6, quoi, tout juste. Et là, depuis 10 ans, donc, tous les ans, il s'en monte de plus en plus de producteurs. Donc, aujourd'hui, on doit être 150 à peu près, 150 producteurs. Donc, tous, c'est dans des bassins comme ceci, artificiels.
Toujours avec un artisan producteur de spiruline qui nous fait visiter en VIP sa production, son laboratoire. Nous continuons donc la visite en lui posant une grande quantité de questions avec les nombreux visiteurs qui m'accompagnent. Comme par exemple, à savoir, est-ce qu'il existe beaucoup de producteurs en France ou ailleurs ?
Nous en France, c'est que des petites structures comme moi, hein, des petites fermes comme ça. Il n'y a pas aujourd'hui encore, il n'y a pas de gros industriels. Il y en a en Chine ou en Amérique. En Inde, là ils en produisent énormément. Donc eux c'est de la poudre. À la sortie de là, ils font comme pour le lait en poudre. Les citernes de lait, quand elles arrivent tempérées, c'est le lait qui est passé dans une tour.
Oui.
C'est chauffé à très haute température, voilà. Et donc là, ça devient que de la poudre. C'est de la poudre. Nous non, nous ça va être, on va le récolter, on va le presser. Je vais vous montrer toutes les étapes. Et le soir, donc, c'est récolté avant le lever du jour, on essaie de le récolter. Et le soir, après, c'est sous forme de spaghetti. Donc, on le fait sécher sous forme de spaghetti pour pouvoir la déshydrater à très basse température. Donc, nous, on la déshydrate, on la fait sécher entre 35 et 40 degrés. Pas plus, pas plus haut. Voilà. Pour pouvoir garder le maximum de ses propriétés. Voilà. Eux, ils sont entre 150 et 200 degrés souvent. Donc, là, malheureusement, dans le produit, il ne reste pas grand-chose. Donc en France, ils s'en consomment à peu près entre 500 et 600 tonnes à peu près de spiruline, hein, au dernier truc qu'on a eu. Et ils s'en produisent à peu près une centaine de tonnes juste. Et la spiruline est classée comme la paillette et la poudre, c'est classé comme aliment. Quand on le passe sous forme de comprimé, alors là, ça va dépendre des régions. Il y a des régions, ça dépend des interprétations, puisque c'est 100% spiruline. Il n'y a pas de produit ajouté, il n'y a rien du tout dedans. Mais comme il y a certaines régions qui disent, les contrôleurs qui disent comme c'est une unidose, ça rentre en complément alimentaire. Voilà. Et d'autres qui disent non, pas spécialement, c'est 100% spiruline, donc pour nous c'est un aliment aussi, quoi. Il n'y a pas de produit ajouté ou quoi pour lier le comprimé. Mais c'est pas l'OMS, pour l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, eux ils considèrent ça comme un aliment. Oui. Pour eux c'est un aliment la spiruline.
Mais celle qui est fabriquée en Chine, on n'est pas trop sûr qu'il n'y ait que de la spiruline, peut-être.
Ça, après, voilà, hein. Moi je peux pas. Je peux pas, voilà.
Non, mais...
ça, après, souvent, de toute façon, eux ça va être. La paillette ils connaissent pas. Hein. La paillette ils connaissent pas, ils sont subjugués par voir de la paillette souvent parce qu'ils se disent mais c'est ça la spiruline. Non, c'est pas ça la spiruline, mais. Pour pouvoir garder le maximum de ses vertus et tout, il faut la faire sécher à basse température. Comment faire ? Donc c'est sous forme de paillettes, on va dire, comme un vermicelle. Voilà. Et là, au moins, elle est assez complète.
Est-ce qu'il y a des nouvelles techniques dans l'élevage de cette spiruline ?
On essaye, si vous voulez, même les plus anciens qui sont dans la spiruline, les producteurs, encore, ils découvrent des choses. On découvre tous les jours des choses, hein, parce que, voilà... Il y a des fois, moi l'année dernière, j'ai perdu un ou deux bassins parce que elle avait brûlé. L'après-midi, j'étais pas là, j'étais en rendez-vous et donc j'ai pas pu la surveiller, on va dire. Sur l'exploitation, je suis tout seul. Donc là, ça avait, la spiruline qui était dessus avait brûlé. Alors on le voit pas, hein. On voit rien du tout. Hein. Le soir, je suis venu le soir tranquillement, comme je fais tous les soirs avant que la nuit arrive, viens faire mon petit tour. C'était nickel, le bassin était nickel, c'était tout vert comme ça. Et le lendemain, quand je suis arrivé, eh bien, c'était que de la mousse et ça débordait de par-dessus les bassins. Parce que c'est très riche en protéines, en spiruline. Et voilà, ça a fermenté. Et donc, une fois sorti la mousse, eh bien, vous voyez le fond. Hein. C'est transparent, il n'y a plus de spiruline, il n'y a rien. Donc, c'est là que... Eh bien, on s'est aperçu que voilà, c'est vraiment à surveiller. C'est très sensible, très...
Alors là, on la voit verte, mais on dirait qu'il y a des reflets.
Dans la spiruline, il y a trois pigments. Vous avez la chlorophylle, donc le vert là qu'on voit. Vous avez le bêta-carotène, c'est très riche en bêta-carotène, donc l'orangé. On peut voir sur les parois là. Sur les parois, vous voyez un petit peu, vous voyez, d'orangé là. Voilà. Alors, avant de passer au orange, elle va passer au bleu. Parce qu'il y a de la phycocyanine dans la spiruline. C'est un antioxydant. Et dans la phycocyanine, il y a le cyan, donc la couleur bleue. Aujourd'hui, cette couleur bleue, c'est la seule couleur qu'on peut utiliser dans l'alimentation en France. Haribo, les bonbons Haribo, utilisent la spiruline pour colorer les bonbons en bleu. Enfin, voilà, c'est un pigment là, de la spiruline qui est très recherché aussi. Et souvent, maintenant, on commence à avoir des boissons antioxydantes en bleu. Vous pouvez voir aussi spiruline liquide. Il y en a qui vous vendent des flacons de spiruline liquide. Alors la spiruline liquide, c'est la phycocyanine seulement. Voilà, ça va être du bleu. Vous prenez vos 3 ou 4 gouttes, là, c'est du bleu. Donc c'est très bien, hein, c'est très bien. Sauf que c'est une partie de la spiruline. C'est pas la spiruline, elle n'est pas complète. Et là, après, je vais prendre le milieu de culture, donc l'eau et la spiruline. Et ça va monter au laboratoire. Là-haut, vous allez voir, elle est filtrée. Et l'eau du bassin, là, j'ai un autre tuyau, donc, que je mets un peu plus loin, là. Et l'eau, le milieu sans spiruline, revient dans son bassin. Voilà. Parce qu'encore, il y a ce qu'il faut pour la spiruline. Quoi.
Chères auditrices et chers auditeurs, vous écoutez l'émission Zoom sur Bram FM 98.3 au cœur de la Corrèze. Nous continuons notre visite en compagnie d'un public nombreux, une visite avec Eric Constant, artisan spirulinier.
Donc moi je suis à peu près à 200-250 mètres cubes là, au niveau des bassins. Mais cette eau-là, mais durant l'année, les bassins sont analysés aussi. Je fais analyser les bassins. Hein. Voilà.
Et la perte par évaporation, vous la chiffrez
combien ? Dans l'année, je rajoute à peu près un peu moins de 200 cubes. Ça paraît pas, mais sous serre, si on veut tenir les températures idéales, donc entre 30 et 35 degrés, ben ça s'évapore quand même. Hein. C'est pas mal, hein, ça s'évapore quand même. Donc là j'ai 180 mètres carrés. Ici, sur ce bassin-là, au total, j'ai 1000 mètres carrés. Si tous les jours, il s'évapore un centimètre, c'est à peu près ça. Hein. Donc, tous les jours, c'est un paquet à rajouter. Voilà.
Est-ce qu'il y a plusieurs qualités de spiruline ?
Il y a plusieurs souches de spiruline. Hein. Il va y avoir, on va avoir les spiralées, celles qui sont très spiralées, donc ça fait comme un tire-bouchon. Là. Voilà. Il y a celles qui sont ondulées. Il y en a plusieurs. Là, il y a un collègue qui est un chercheur, je ne me rappelle plus son nom, qui est dans le sud de la France, qui a trouvé une spiruline en Camargue, donc il s'en développe une en Camargue. Mais encore, on va dire, tant mieux, mais il n'est pas arrivé à la préserver dans un milieu artificiel comme ça.
Alors s'il arrive à la cultiver, en fait, elle a tout ce qu'il faut, quoi. Elle est dans son milieu naturel.
Aujourd'hui, vraiment, c'est ce que beaucoup pensent, même il y a des chercheurs qui le disent, hein, celle-là a la possibilité de se charger beaucoup plus en phycocyanine. Maintenant, il faut, je pense, encore faire des recherches, parce qu'il n'y a pas, on va dire, énormément de recherches, quoi. Avec la Fédération Française de Spiruliniers, une fédération française qui s'est montée, alors faut pas dire de bêtises, mais il y a 7-8 ans. Et là, on commence à mettre en place des recherches et développements, enfin, pas mal de choses pour faire beaucoup de recherches sur la spiruline.
Voilà. Je suppose également que vous avez des contrôles réguliers.
Moi, j'ai été déjà contrôlé deux fois par la DGCRF pour voir si tout allait bien au niveau laboratoire et tout. Après, il faut savoir qu'avant d'être vendue, l'aspirine, automatiquement, on n'a pas le droit de la vendre si elle n'est pas analysée au niveau microbiologique et tout ça, quoi. Parce que au niveau du séchage, si c'est pas assez sec, eh bien, il peut y avoir un développement d'autres bactéries. Enfin, je veux dire, voilà, c'est... Non, non. Moi, je fais contrôler ici au laboratoire vétérinaire départemental. Là.
Alors, il doit y avoir également une date de péremption.
Alors, c'est un produit sec, comme le café, les pâtes et tout ça. Donc après, nous, la date de péremption, on va dire, la DLC, elle est de 2 ans. Après, si le paquet n'a pas été ouvert ou quoi que ce soit, alors on l'a pas testé, hein, on l'a pas réanalysé derrière au bout des 2 ans, parce que c'est des petites productions et moi je les tiens pas, je la tiens pas hein, ma production. J'arrive tout juste à faire le joint entre les deux saisons. Mais j'en ai consommé moi d'aspirine il y a 7-8 ans. Après peut-être qu'elle a perdu, hein, ça c'est clair. Hein, mais dire combien et tout, je sais pas du tout. Je vais pas vous dire. C'est encore. Peut-être qu'il y en a à la Fédé qui l'ont analysé, mais ça je suis pas au courant, je sais pas du tout. D'autres questions ? Ou ici, c'est parti ?
Nous allons continuer cette visite en VIP chez Eric Constant, spirulinier qui nous fait visiter actuellement tout son laboratoire et répond à toutes nos questions.
Donc il faut savoir qu'en gros, pour avoir 1 kg de spiruline sèche, il faut multiplier par 10. Donc ici, j'ai à peu près 10 kg de liquide, enfin de spiruline en biomasse. Voilà. Donc par jour, j'arrive à en faire moi à peu près une dizaine de kilos, entre 10 et 15 kilos. Il y a des fois, je peux monter à 20 kilos. Là, pour avoir 20 kilos de sec, il faut à peu près 200 kilos de ça. Donc là, je presse à peu près des 30 litres, quoi, 30 kilos à peu près. Donc ça en fait quelques bassines. Mais ce que j'essaye de faire, c'est de faire de grosses récoltes sur un bassin. Donc les récoltes sont déclenchées par rapport à la densité de spiruline qu'il y a dans l'eau. Je regarde voilà, par rapport à un disque de séquille qu'on appelle. La spiruline, si toutes les conditions sont favorables, c'est-à-dire la luminosité, température de l'eau, elle se développe de 20 à 25% par jour. En moyenne en France, on arrive à sortir par an, même si on va dire c'est par saison, mais nous on étale sur l'année, on va dire, par mètre carré de bassin, entre 700 et 800 grammes par mètre carré de spiruline sèche. Ceux qui sautent très fort, ils arrivent à 1 kg. Alors, j'ai des collègues dans le nord de la France qui, eux, malheureusement, par rapport à nous, il faut la chaleur de l'eau, obligatoirement. Donc, ils utilisent des méthaniseurs et ci et là pour pouvoir chauffer. Ils chauffent toute l'année. Il leur manque un petit peu de lumière, donc ils ajoutent pour la lumière. Les meilleurs, ils arrivent dans l'année, ils sortent 1,5 kg. Mais l'investissement, il est énorme. Moi, pour la première serre que j'ai montée, là, j'étais à peu près à 50 000 euros d'investissement. Eux, la même surface de bassin, donc 360 mètres carrés, il faut chauffage au sol, donc les serpentins sous les bassins, et ici et là, donc dans l'embéton et tout, ils en ont pour à peu près 250 000 euros. Pour récolter 7 ou 8, même pas 500 grammes de plus, qu'on va dire. Donc, même eux, ils disent si on avait la chance de pouvoir avoir la possibilité de déménager, d'aller dans le sud, ça serait top, quoi. Donc après ici c'est sûr que si on pouvait chauffer les bassins, on va dire que même l'hiver, moi j'ai fait le test juste avec un luxmètre là pour voir quand le ciel est dégagé, parce qu'il faut pas spécialement le soleil, il faut la lumière, c'est tout. Donc un ciel dégagé sans nuages, ça va très très bien.
Et dans le domaine de la spiruline, il y a de la concurrence actuellement ?
Alors aujourd'hui ça commence à être un petit peu, on va dire, pas la guéguerre mais presque, parce que de plus en plus si ça monte, toutes les semaines il y a un nouveau qui se monte. Dans certaines régions ou certains départements, ils commencent pas à se toucher, mais presque. Donc, il y en a qui, on va dire, pas le monopole, mais qui sont déjà implantés dans des boutiques, des magasins et tout. Les nouveaux qui arrivent, ils veulent aussi y être dans les boutiques. Alors moi, j'ai la chance, on va dire, que moi, les points de vente où je suis, quand j'ai commencé, c'est eux qui me demandent. Moi, je refuse aujourd'hui entre 3 et 4 points de vente par mois, parce que j'ai pas assez de production. Je préfère, si vous voulez, dès le départ, j'ai préféré investir un petit peu dans la communication plutôt que d'aller dans les magasins et dire « vous voulez pas mon produit » parce que là, on va dire que c'est eux qui vont décider presque le tarif. Hein. Alors que l'inverse, c'est mieux. Hein. Donc, j'ai préféré, moi, faire un petit peu de communication sur des journaux ici pour que la clientèle particulière déjà vienne vendre en direct, quoi. Et puis petit à petit, c'est les magasins qui m'ont appelé, qui sont venus à moi. Donc là, Il y en a certains qui me disent bon, mais non, vous me la vendez trop cher, et puis tant pis.
C'était l'émission Zoom avec cette semaine le monde paysan par le grand bout de la lorgnette pour élargir le champ de la réflexion et de l'action. Sur Bram FM, tous les mercredis à 9h30, les vendredis à 14h et bien sûr en podcast sur bramfm.com. À bientôt.